proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Mireille Hadas-Lebel et Emmanuel Aladef qui nous parlent de la parution des récits et légendes des mondes juifs aux éditions Yodéa. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Votre actualité, c'est un voyage pour petits et grands dans la mémoire d'un peuple plurimillénaire auquel vous nous conviez avec la parution des récits et légendes des mondes juifs. 21 récits et légendes du patrimoine juif sont racontés dans ce livre à destination du jeune public, mais pas que. Des histoires connues ou moins connues de l'Antiquité au XVIIIe siècle qui puisent leur source dans la Bible, la tradition orale, la sagesse populaire, l'histoire, la littérature ou les contes chassidiques. L'auteur, c'est vous, Mireille Hadas-Lebel, et oui. Nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne de Radio Shalom. Vous êtes professeur émérite de la Sorbonne et de l'INALCO, spécialiste de l'Antiquité et de l'histoire du judaïsme. Vous êtes l'auteur, entre autres, de plusieurs ouvrages historiques de référence sur Flavius Joseph chez Fayard, Hérode chez Fayard, Massada chez Albin Michel et Hillel chez Albin Michel notamment. Et je crois savoir qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont réédités aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, effectivement, mon histoire de la langue hébraïque chez Albin Michel, ainsi que Hillel, un sage au temps de Jésus, toujours chez Albin Michel. Voilà. Et puis, il y a une édition des œuvres complètes de Flavius Joseph, que je n'ai pas traduite moi-même, mais dont j'ai corrigé la traduction, qui vient de sortir chez Bouquin.
D'accord.
Alors, vous avez tout Joseph en un seul volume.
Une actualité chargée hein, qui s'ajoute à ces récits et légendes des mondes juifs aux éditions Yodéa. Donc dans ce livre, vous mettez à profit votre connaissance des sources de la tradition juive, convoquant votre talent de narratrice pour revisiter les plus belles histoires des mondes juifs afin de les faire connaître aux nouvelles générations. Et Emmanuel, vous êtes là aussi parmi nous, vous êtes l'éditrice de l'ouvrage, vous dirigez avec votre époux Laurent les éditions Yodéa, spécialisée dans le judaïsme, et vous êtes également l'un des 5 enfants de Mireille Hadas-Lebel. Alors j'aimerais juste lire la petite dédicace qui débute l'ouvrage, signée Mireille Hadas-Lebel, aux enfants qui seront délaissés un moment les jeux de leur temps pour découvrir des récits d'un autre temps, aux parents qui courent après le temps, aux grands-parents qui trouveront enfin le temps de raconter des histoires aux enfants. Alors est-ce que c'est une histoire de famille la parution de cet ouvrage?
Oui, on peut le dire ainsi. Alors, si je raconte un peu la genèse du projet, en fait, nous, on avait envie, on voulait se faire plaisir de publier un livre de contes. Alors, on se souvient tous que quand on était petit, il y avait les contes et légendes d'Israël, donc qui ne sont plus édités. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller voir, de relire ce livre pour voir un petit peu si il serait intéressant de le publier. Alors, c'est un livre qui est très bien, formidable, qui avait été écrit par le rabbin Veil, je crois.
Alexandre Veil.
Alexandre Veil. Mais on a constaté quand même que le livre avait un peu vieilli. C'est-à-dire aussi bien au niveau des illustrations, ça c'est inévitable, parce que les illustrations, ça va très vite, les jeunes veulent des choses actuelles. Et aussi même l'écriture. On sait bien que la qualité d'écriture, enfin que les enfants, malheureusement, ne sont plus vraiment capables de lire des livres qu'autrefois on lisait quand on était jeune. Donc on est parti de ce constat, on a fait plusieurs essais, on a sélectionné plusieurs choses. Et puis finalement, j'ai parlé du projet à ma mère. Et alors maman, tu peux peut-être expliquer quelle a été ta réaction.
Oui, je me suis dit que ça serait amusant d'écrire pour la jeunesse, mais pas seulement pour la jeunesse d'ailleurs, de rassembler tout ce que je pouvais connaître comme contes, légendes, mais aussi histoires que je pouvais adapter, en prenant d'ailleurs la même trame chronologique que veille dans les contes des légendes, c'est-à-dire ne pas tenir compte de la date de rédaction ou d'apparition des histoires, mais les classer suivant que ça concerne l'Antiquité, le Moyen-Âge, et poursuivre ainsi, donner une sorte de cours d'histoire juive à travers des histoires et des contes. Voilà.
Alors, on va parler du contenu dans un instant. Auparavant, vous avez parlé des illustrations, hein, l'illustrateur Jérémy Dress. Est-ce que c'est la fraîcheur, la nouveauté, l'air du temps de cet auteur, de cet illustrateur qui vous a séduit ?
Alors, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jérémy sur différents salons. Et surtout, je connaissais ses différents romans graphiques qu'il a écrits, qui ont eu beaucoup de succès dans le monde juif et non juif. Alors, il y a des choses qui sont personnelles, comme il a écrit « Si je t'oublie, Alexandrie ». Donc là, il part un petit peu sur les origines de sa famille. Donc, il a une partie originaire de là-bas. Mais il a aussi des origines ashkénazes. Donc, il a écrit un autre livre, « Nous n'irons pas à Auschwitz ». Donc, c'est des romans graphiques. C'est comme des reportages, mais c'est sous forme de BD. Donc, ça s'appelle des romans graphiques. C'est un style un peu nouveau. Et moi, j'avais été emballée par son style. Je trouvais que c'était très actuel, très, très frais, comme vous disiez, coloré. Et alors, j'ai fait le test un petit peu autour de moi. J'ai présenté les illustrations à différents enfants que j'avais autour de moi. Et ils m'ont dit, ah, mais si, c'est très sympa, c'est très sympa. Et j'ai dit, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous trouvez que ça serait adapté si on faisait des contes juifs avec ça? Et voilà, donc ils nous ont répondu positivement. Et j'ai contacté Jérémy, qui a été emballé par le projet. Oui. Et donc, voilà, on l'a
mais
associé.
Mais tu as aussi fait le test auprès de ta mère qui a trouvé ces illustrations.
Alors ça, c'est vrai que c'est intergénérationnel. Pour moi, c'était aussi important, effectivement, que ça plaise. Alors, en priorité aux plus jeunes, parce que ce livre est quand même destiné aux plus jeunes. On aimerait que ce livre soit lu par les jeunes, parce qu'il y a quand même un devoir de transmission. On voudrait transmettre ce patrimoine qui fait partie de la culture juive. Donc, il y avait cette idée-là, mais effectivement... On sait bien qu'il y a aussi des grands-parents qui vont lire ces histoires à leurs petits-enfants, donc il ne fallait pas rebuter non plus les grands-parents. Et je pense que là, il a rempli le contrat et que ça plaît à tout le monde.
Alors, le judaïsme est traversé, construit même par des récits. Ils sont nombreux entre les sources de la tradition juive, les contes, les légendes, la sagesse populaire, la littérature juive. Comment se sont imposées à vous ces 21 histoires ?
Alors, il y en avait que je connaissais à travers le Midrash, par exemple, comment Abraham découvre Dieu à travers le cycle du monde, les jours qui se renouvellent. Il y en a d'autres que j'ai choisis parce que j'ai pensé qu'il fallait un petit élément de détente et de réflexion aussi pour les jeunes et même les moins jeunes. Le golem, c'est est-ce que la machine peut remplacer l'homme? Bon, j'espère qu'ils comprendront la leçon aussi. Mais en même temps, le golem commet beaucoup de bêtises, donc c'est amusant à lire pour un enfant. Quelque chose de plus grave qui est la fuite de Dona Gracia. Comme je connais bien le Portugal, j'ai essayé d'imaginer comment Dona Gracia avait pu fuir le Portugal au moment de l'Inquisition. Et j'ai pris grand plaisir à écrire ce texte, qui est peut-être un peu allusif, mais qui parlera aux plus grands. Puis il y avait les contes hassidiques, bien sûr, comment résister à tous ces jolis contes qui mettent en valeur la spiritualité du Baal Shem Tov et de ses disciples. Mais déjà avant, il y avait Hillel, qui pouvait être présenté comme un modèle de spiritualité, mais qui pouvait aussi amuser par ce qu'il y a des anecdotes qui le concernent, qui concernent sa patience et qui sont très drôles. Voilà.
C'était l'occasion de faire connaître les grands personnages du judaïsme,
oui, bien
comme Maïmonide.
Comme Maïmonide. Bon, il y a une histoire qui est certainement apocryphe, cette histoire de Maïmonide. Mais au moins, grâce à cette histoire, les enfants qui n'ont jamais entendu ce nom, et je pense qu'il y en a beaucoup, sauront qu'il a existé un grand savant, philosophe, qui était aussi médecin et qui se consacrait beaucoup à sa tâche de médecin, qui vivait en Égypte. Et puis aussi, alors, j'ai beaucoup puisé. Ça m'est très particulier, dans la tradition du judaïsme hellénistique, puisque je connais bien cette littérature, et j'y ai trouvé beaucoup de légendes qui couraient tout autour du bassin oriental de la Méditerranée dans l'Antiquité, mais qui sont totalement oubliées depuis, et pourtant sont des légendes totalement juive.
Est-ce que vous êtes resté fidèle dans la manière d'écrire à ces récits ou est-ce que vous y apportez une touche un peu romanesque, votre touche ?
J'espère que j'ai apporté un peu ma touche quand même. Quand il y avait lieu, je restais le plus près possible. Quand je pouvais m'évader d'un cadre, je l'ai fait aussi. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire.
Alors, on le sent justement dans l'écriture en elle-même. Est-ce que le projet était double, à la fois eh bien de divertir les enfants et en même temps de leur transmettre, avec ce souci hein, de transmettre l'héritage d'Israël ?
Écoutez, je suis historienne, j'ai voulu transmettre l'histoire d'Israël à travers quelques grandes figures. Voilà, c'est clair.
Est-ce que c'était récréatif pour vous par rapport à vos autres écrits qui sortent en plus en ce moment?
Écoutez, je n'avais pas besoin de mettre des notes de bas de page et des renvois. C'était l'écriture en liberté, vraiment. Un vrai plaisir.
Et l'éditrice, est-ce qu'elle a eu son mot à dire?
Un petit peu. J'avoue.
Un petit peu.
J'avoue que j'ai un peu... Déjà, on a sélectionné ensemble les contes. Donc, on voulait que... Alors, il y en a qui sont inspirés du Midrash, c'est ce qu'on a dit. Hein, donc, des histoires qui sont à côté de la Bible. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait des découvertes parce qu'il y a des histoires qui sont tellement connues que j'étais persuadée qu'elles faisaient partie de la Bible. Donc, voilà. Là moi-même, j'ai été prise à mon propre... Je pense à l'histoire d'Abraham et les idoles. J'avoue que j'avais été un petit peu surprise. Ah bon, c'est pas dans la Bible? Non, c'est le Midrash. C'est une histoire qui est à côté.
Oui, je donne toujours mes sources.
Tout à fait.
Quelquefois, je fusionne la Bible et le Midrash.
Tout à fait. Et ensuite, donc on avait le souci aussi que ça parle aussi bien à un public ashkenaz que séfarade. Donc, on avait ces deux impératifs. C'est vrai qu'ensuite, toi, tu étais plus sur des contes aussi un petit peu historiques. Donc, on va parler d'Alexandre le Grand, on va parler de la figure du grand prêtre, on va à l'époque de Jérusalem. Ça nous a paru intéressant. Et moi, l'impératif que j'avais quand même, c'était que ne pas oublier qu'on s'adresse à des enfants. Donc, que ça soit quand même agréable à lire, joli, positif. C'est ça, avec une, alors un voilà. peu, on dirait Gamzoul et Tovas. Finalement, il y a cette histoire.
Tout est pour le bien.
Voilà, tout est pour le mieux. Quelquefois, on comprend pas pourquoi il y a des choses négatives qui nous arrivent. Ben voilà, finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent. Donc voilà, moi, j'étais un peu dans cette dimension de dire, je veux, même quand on parle, je vais vous dire, de l'Inquisition, qui est un sujet quand même très, très sérieux et austère. Voilà, il y a une fin positive. On part sur une note d'espoir de Donna Gracia qui va s'installer en Turquie et qui va sauver beaucoup de Juifs. Donc voilà, on est toujours dans des contes positifs qui donnent de l'espoir et qui sont jolis à lire.
Alors, ce qui est aussi pas mal hein, pour une maman ou une grand-mère ou un grand-père, un père qui raconte l'histoire, c'est qu'elles ne sont que de quelques pages. Le format aussi est intéressant d'avoir réussi à condenser et à écrire toutes ces histoires en peu de pages.
Oui, bien sûr. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Emmanuel. J'ai pas voulu non plus que ça ait l'air trop moralisateur. Ça l'est quand même implicitement, je pense. Je crois que ça reste pas trop pieux, si je puis dire. Voilà.
Tout à fait.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, en compagnie de Mireille Hadas-Lebel et de Emmanuel Aladef, qui nous parlent de leur actualité, la parution aux éditions Yodéa des récits et légendes des mondes juifs. Alors, comme on est entre familles, eh bien, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous livrer une anecdote familiale. Quand j'ai récupéré cet ouvrage, eh bien, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai lu le soir à mes enfants. Et notamment mes deux petits derniers, de 3 ans et 8 ans. Et ils ont très vite été accros. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'un soir se passe sans que je leur lise au moins une seule histoire. Et ce que je vous dis est vraiment réel.
Ah bah ça fait très, très plaisir.
Ah oui, vraiment.
Vraiment réel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui suit. C'est-à-dire que je leur lis l'histoire de comment a été décidée la construction du Temple de Jérusalem. Mon fils de 8 ans est à l'école juive et il lit, il écoute religieusement le récit, il ne m'interrompt pas. Et à la fin, il me dit « Mais c'est pas ça la vérité ». Alors je lui dis « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « En cours d'histoire juive, on m'a donné une autre version basée sur telle ou telle chose ». Et là, on a commencé à discuter de tas de choses. J'aurais jamais imaginé que dans sa petite tête d'enfant de 8 ans, on puisse avoir ça. Et je lui expliquais peut-être le recul aussi à avoir par rapport à des choses qu'on lui enseignait à l'école. Et donc, eh bien, c'est vraiment une réussite parce qu'en plus de divertir les enfants, de nous permettre à nous parents eh bien, d'avoir les mots pour lire et résumer des histoires qu'on aurait envie qu'ils connaissent, eh bien, c'est aussi un point de départ pour discuter et leur apprendre des choses sur le judaïsme, la religion en général. Et pour ça, vraiment, c'est une vraie réussite et merci.
Merci beaucoup et ça fait vraiment très plaisir d'entendre ça parce que on se dit qu'on a un petit peu rempli notre mission.
Oui.
Si on arrive
Qu'est-ce que vous en pensez de...
Alors, c'est pas ça la vérité, je ne sais pas comment je dois l'interpréter. C'est qu'il n'y a pas de vérité, c'est le Midrash.
C'est ça. Mais c'est
voilà.
Ça, ouais.
Le Midrash s'envole à partir d'un texte. Alors, il peut partir dans des sens différents. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre la légende et l'histoire. Alors, voilà, lorsque je parle de Dona Gracia, j'essaie d'être aussi près que possible de la vérité historique, même si je n'ai pas assisté à son embarquement. Mais tous les personnages que je cite, j'ai tout vérifié, toutes les dates où ils ont pu se rencontrer, ceux qu'ils ont connus de leur temps. Ça, c'est vrai. Mais autrement...
La question, c'est quelle est la vérité, finalement, dans les Midrashim? Oui. Alors, et quand, en cours d'histoire juive, on explique ça à un enfant qui a 6, 7, 8 ans, hein, avant d'avoir...
Il faut comprendre que le Midrash nous apporte une leçon de morale, une interprétation, parce que on ne s'intéresse pas au comment ça s'est passé, on veut savoir pourquoi ça s'est passé. Voilà. Quel est le sens tout le temps?
On essaye d'apporter des réponses.
Et donc, on apporte du sens, mais on n'apporte pas une vérité historique. Et là, malheureusement, je crains que beaucoup de gens présentent cela comme des faits.
Alors, et d'où l'intérêt de ce petit livre qui, finalement, permet aux parents de rectifier un petit peu les choses et de discuter avec les enfants.
Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a quand même pas mal réfléchi au titre qui... le titre est très important, hein, s'appelle « Récits et légendes des mondes juifs ». Chaque mot, on a pesé chaque mot, on a hésité avec d'autres mots.
Alors, c'était une question aussi que je voulais vous poser aussi, différence entre récits et légendes, et puis des mondes juifs aussi au pluriel.
Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y avait, bien sûr, naturellement, moi, j'aurais aimé utiliser le mot « conte ». Mais on n'était pas, il n'y avait pas que des contes, il n'y avait pas que des légendes. Donc finalement, on s'est dit que le mot récit était peut-être un peu plus global que le mot conte. Il avait une autre dimension. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces deux mots. Et puis ensuite, les mondes juifs, bien sûr, c'est parce qu'on faisait référence au monde ashkénaze, au monde séfarade, au monde antique, au monde contemporain. Donc voilà, c'était quelque chose qui couvrait aussi bien une zone géographique, mais aussi historiquement toute une période qui est assez longue.
Alors, quand on consulte le site de votre maison d'édition, il y a un sous-titre indiqué sous les éditions Yodéa, « Connaître le judaïsme ». Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, peut-être faire connaître la richesse de la civilisation du judaïsme au plus grand nombre, et ce livre en est un exemple?
Oui, tout à fait. Alors bon, je ne vais pas raconter l'histoire des éditions Yodéa qui existent depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Bon, c'est une histoire qui est un petit peu trop longue à raconter. Mais ce qui est sûr, c'est que naturellement, moi, je suis intéressée par le judaïsme. J'ai eu une éducation juive assez forte, sans être forcément très pratiquante. Mais en tout cas, la culture juive est vraiment une partie qui est très, très importante pour moi. Et quand on a monté cette maison d'édition, alors il y avait aussi un aspect commercial, mais on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime. Et là encore, on s'est fait plaisir, on s'est dit, on va parler de judaïsme. Alors bien sûr, nous, on ne voulait pas parler de judaïsme trop religieux parce que ce n'est pas ce qui nous caractérise. Mais on voulait quelque chose de, justement, parler du judaïsme grand public. Du judaïsme qui s'adresse aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Donc, c'est vrai que nous, on a fait différents ouvrages. Donc, on a fait des livres pour enfants. Alors, par exemple, la collection Sammy Spider, là, qui couvrait toutes les fêtes juives. C'est sûr que là, on s'adresse plutôt à des familles juives, à des petits-enfants juifs. Mais ensuite, quand on a fait Les Aventures de Rabbi Hervé, qui est une bande dessinée avec un rabbin au Far West, avec de l'humour, de la sagesse, quelque chose de complètement décalé qui venait de New York, avec un auteur qui est américain, là, on a dépassé le public juif. On a été coup de cœur à la FNAC, on a eu un article dans Télérama, et donc voilà, c'était une façon de faire connaître la beauté du judaïsme à travers l'humour et la sagesse juive. Et donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ces livres. Et puis, il y a aussi les livres de Naomi Ragan, donc auteure israélienne d'origine américaine, qui écrit des romans qui se passent dans le milieu juif, alors plutôt orthodoxe, pas tous, mais et là encore, c'est une façon informelle de découvrir le judaïsme, de voir comment on vit dans certains milieux ultra-orthodoxes à Brooklyn ou à Jérusalem. Et donc voilà, tout ça, en fait, c'est pour ça que notre maison d'édition est spécialisée. Nous, on dit qu'on est spécialisé dans le judaïsme grand public. On couvre le judaïsme à travers différents aspects, différentes formes. Donc voilà, et puis avec maintenant ce livre de contes, on s'adresse à tout le monde.
Qui s'inscrit parfaitement dans votre démarche, puisque en pensant au public, alors vous donnez un âge, hein, mais je pense que plus petit aussi, on peut lire les histoires aux enfants.
Moi, je pensais que plus grand aussi, en fait.
Et justement, et de l'autre côté, plus grand aussi, et puis finalement, pour les non-juifs.
Complètement. Complètement. Donc là, écoutez, on va bien voir ce que ça donne parce que là, le livre vient de sortir, donc je ne pourrais pas vous faire des statistiques aujourd'hui. C'est sûr que l'accueil du public est très positif. On a fait pas mal de salons en cette période de fête de Hanouka au mois de novembre. On a fait beaucoup de salons. Bien sûr, dans les librairies juives, l'accueil est bon. Mais même au-delà, voilà, on peut parler... alors, je ne sais pas si on peut signer des enseignes, mais à la FNAC des Ternes ou FNAC Montparnasse, ils ont été très intéressés de savoir que ce livre existait. Et donc, on espère que voilà, ça va dépasser effectivement le succès de la communauté parce que finalement, les contes et légendes, comme vous dites, voilà, on n'est pas obligé d'être indien pour lire un livre de contes et légendes indiennes. Voilà, c'est un peu la même logique. C'est quand même aussi... les racines, la culture juive est quand même aussi les racines du monde chrétien. Donc voilà, ça a aussi un sens pour des personnes non juives de lire ces contes.
Quel regard vous portez sur le travail de votre fille, de votre gendre, sur cette maison d'édition?
Et je suis fière qu'ils reprennent le flambeau à leur manière. Oui.
Est-ce que pour vous, c'est une suite finalement de ce que vous faites ou de ce que vous leur avez inculqué?
Bien, je crois dire, je suis une mère heureuse de ce point de vue. Voilà.
Alors, il y a aussi des choses à prendre en compte hein, par rapport à l'ouvrage en lui-même. Il y a une police à haute lisibilité qui est adaptée aux dyslexiques. C'est assez nouveau, ça aussi.
Oui, alors ça a été un concours de circonstances. Au départ, on n'y aurait pas forcément pensé, mais on avait fait, il y a 2 ans, le Salon du Livre de Paris. On avait un stand. Enfin, peut-être avant le Covid, pas 2 ans, effectivement, un peu plus. On avait rencontré un Italien qui était venu sur notre stand et qui nous avait parlé de cette police de caractère, justement, pour les enfants dyslexiques. Et on avait dit, c'est intéressant. Bon, simplement, on n'avait pas de livre pour enfants de prévu à cette époque-là. Donc, on avait gardé sa carte de visite et on s'était dit que ça pourrait être intéressant. Et je suis contente qu'on n'ait pas oublié ses coordonnées. Quand on a eu ce projet-là, parce que finalement, je me dis, mais oui, ce monsieur a raison. Il y a des enfants, et je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a de plus en plus d'enfants dyslexiques, mais en tout cas, on les décèle peut-être plus qu'avant. Et pour nous, c'était important qu'un maximum d'enfants puissent lire ce livre. Et là, donc, effectivement, c'est une police qui choquera absolument pas quelqu'un qui... Enfin, personne ne va rien remarquer si on ne vous le dit pas. Mais en tout cas, elle a été pensée par un monsieur qui est spécialiste dans cette problématique et qui a conçu cette police de caractère qui s'adresse et qui peuvent permettre à des enfants dyslexiques de bien différencier chacune des lettres.
Alors, une fois que les parents, grands-parents auront lu les récits, une fois que les enfants les auront lus un grand nombre de fois, eh bien, on reste un peu sur sa fin. Est-ce qu'une suite peut être envisagée?
Ah, alors, il faut me donner des idées.
Alors, on
voilà,
vous en donnera.
Je suis ouverte à toutes les propositions.
En tout cas, oui, c'est vraiment un ouvrage réussi.
Je peux peut-être ajouter effectivement oui. qu'on a eu le soutien pour ce projet de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, oui, de la FMS, qui a été vraiment emballée par le projet, enfin qui, je pense, comme nous, pensait que c'était un projet qui avait vraiment un intérêt. Et qu'on était et qu'ils étaient dans leur mission en soutenant ce genre de projet. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit, écoutez, on a été très heureux de financer, de participer au financement de ce livre, et on serait très heureux s'il y avait une suite.
Donc vous avez... Eh bien, on l'attend. Il y a une question classique, mais non moins difficile, hein, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditeurs et aux auditrices de Radio Shalom de lire cet ouvrage, qu'est-ce que vous leur diriez, Madame Hadass Lebel?
Ah là, vous me prenez de court. Qu'est-ce que je leur dirais? Lisez-le, vous apprendrez beaucoup de choses sur notre histoire. Et puis, je crois que vous vous ferez plaisir aussi.
Merci. Et vous, Emmanuel?
Vous apprendrez des choses et vous passerez un bon moment. Et c'est des histoires que vous pourrez vous-même ensuite raconter parce qu'elles sont souvent amusantes, elles sont souvent... subtil ou
Et puis ce qu'on a lu dans son enfance, on le retient jusqu'à un âge très avancé, je peux vous dire.
Tout à fait. Et je vais peut-être ajouter, je vais rebondir sur cette idée-là, parce que je dois dire que aussi si on a eu ce projet-là de faire ce livre de contes, c'est aussi parce que je me suis souvenue que moi-même, quand j'étais enfant, je participais à des mouvements de jeunesse. Je partais en colo. Et alors là, je vais citer encore, excusez-moi.
C'est pas grave.
Voilà, une colo que j'affectionnais beaucoup quand j'étais jeune, c'était Tikvat et nous. Et on a eu des moments formidables. Et je me souviens des animateurs qui, avant le Birkat Amazon, donc la prière de fin du repas, nous racontait des histoires. Et en fait, en faisant ce projet-là, j'ai pensé à eux. Je me suis dit, c'est incroyable, 35 ans après, je me souviens de certaines histoires qu'on m'a racontées à cette occasion. Et je me dis, mais donc voilà, quel est le pouvoir, finalement, des contes? C'est-à-dire que c'est des choses, c'est comme des chansons, c'est des choses qu'on retient peut-être plus facilement que des choses scolaires ou des choses comme ça. Et je me dis, mais c'est incroyable le pouvoir de ces contes. Et j'aimerais qu'on puisse poursuivre la chaîne et transmettre à nouveau ces contes, même pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller dans des mouvements de jeunesse, voilà, comme ça.
Eh bien, c'est une jolie mission que vous êtes assignée. On rappelle votre actualité, Mireille Hadas-Lebel, illustrée par Jérémy Dress, qui signe les récits et légendes des mondes juifs aux éditions Yodéa. Nous sommes encore dans les fêtes de Hanouka. Il y a les fêtes de fin d'année aussi qui s'annoncent, et je pense que c'est le meilleur cadeau utile, intéressant, instructif, pédagogique, ludique à offrir et à s'offrir. Récits et légendes des mondes juifs, je le répète, aux éditions Yodéa. Merci infiniment d'avoir accepté de nous en parler.
Merci
sur l'antenne de Radio Shalom.
Merci beaucoup, Sandrine.
Bonsoir.